Salut, salut à tous, bienvenue dans le Salon Tactique numéro 10, spécial Coupe du Monde. Et on en a des choses à dire ce soir après ce match entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, un match remporté 28 à 24 par les All Blacks. C'était monstrueux cette rencontre, ce quart de finale ce soir au Stade de France. Et évidemment, on va aborder en long, large, en travers celui de la France contre l'Afrique du Sud. Ce sera demain soir, encore une fois, au Stade de France. On rappelle aussi que l'Argentine s'est débarrassée du Pays de Galles un peu plus tôt à Marseille. Mais bon, ça c'est quasiment anecdotique vu la rencontre de ce soir et vu ce dont on va parler pour demain. Le casting habituel est là, vous les voyez, Alexandre Bardot qui n'est pas encore couché. Alex, comment ça va Alex? Ah, le micro Alexandre, aïe aïe aïe, le micro, grave erreur, il nous fait une erreur de débutant.
À 23 h, c'est après un match comme ça, c'est un peu difficile. Je sais pas si je suis fatigué, essoufflé, nerveux, trop nerveux, je sais pas. C'est trop compliqué ce soir.
Yannick est là aussi, Yannick Bru, notre consultant, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Tu t'es régalé aussi ce soir-là?
Ouais, régal total. C'est vrai que la magie d'une Coupe du Monde, c'est de nous procurer des matchs comme ça. Donc j'avais mis un polo vert, je me suis changé viteuf. J'ai glissé dans un polo noir de circonstance. Mais ouais, quel match, quelle finale. Et quelle copie rendue par la Nouvelle-Zélande, qui n'était pas favorite sur ce match, mais ça prouve que tout est vraiment possible, sur ces quarts de finale.
Ouais, on va en parler un peu en quelques instants. On va s'intéresser évidemment à l'équipe de France contre les Box demain. Trois thèmes que vous avez choisis, messieurs. Tout simplement, qu'attendre de cette rencontre? Est-ce que ça va être une boucherie? Est-ce qu'il va y avoir du jeu? Est-ce qu'on va se régaler là aussi? Pas mal d'interrogations. La pression que vont nous mettre les Box demain dans ce match au Stade de France, à chaque instant, Yannick va nous raconter toutes ces batailles qu'il peut y avoir dans la rencontre. Et enfin, comment les Bleus peuvent faire la différence offensivement contre une défense, pardon, bien en place des Sud-Africains. Mais avant toute chose, on va revenir sur ce match, sur cette victoire des All Blacks. Yannick, tu le disais, ils n'étaient pas favoris sur le papier parce qu'ils avaient perdu le premier match d'ouverture contre la France. Ils étaient montés en intensité en attaque ces dernières semaines, mais ce soir, ils ont été impressionnants, non?
Oui, et puis surtout, on a assisté à ma enfin, un match formidable de leur troisième ligne. On a vu une domination sans partage, en tout cas sur la première mi-temps, sur la zone de raid, avec plusieurs contests essentiels. Un Sam Kane qui a retrouvé son meilleur niveau au meilleur moment pour la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que je faisais partie des sceptiques sur la titularisation de Sam Kane, mais quel match! Et donc, les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, et c'est vrai qu'on a vu une équipe de Nouvelle-Zélande portée par ses leaders qui ont souvent été décisifs dans les moments clés, avec une équipe d'Irlande qui, quand même, a fait preuve d'une force de caractère au-dessus de la normale parce qu'elle aurait pu sombrer. Beaucoup de coups du sort en sa défaveur, beaucoup de coups de boutoir de cette équipe néo-zélandaise, et malgré tout, elle est revenue. Elle a cru à la qualification jusqu'à la dernière minute, et même nous, sur la dernière action, s'il y a un avantage, on se dit que ça peut être un mole de plus, et donc une qualification de l'Irlande. Donc, franchement, un niveau d'expertise de tous les petits gestes à la fin, une communication aussi avec l'arbitre sur la zone de ruck, pour ne pas faire l'appui de trop. C'était vraiment du très très haut niveau, et merci à la Coupe du Monde de nous donner des rencontres comme ça.
Alex, on en voit beaucoup des rencontres avec plus de temps de jeu, avec plus de 30 temps de jeu parfois, comme on a vu en première mi-temps, en début de match et à la fin de la rencontre là.
Je me suis posé la question là, sur la première action néo-zélandaise quand il y avait 30 temps de jeu. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un record de la Coupe du Monde? Bon, ben, le record a été battu dans le même. Si c'était un record, il a été battu dans le même match sur la dernière action. Je regardais en même temps que Yannick parlait, je regardais un peu les stats en direct, les stats d'Opta. Il parlait de la troisième ligne. Sam Kane, il a fait 21 plaquages ce soir. Hardis avait à 14, Scott Barrett 16. Au total, les Néo-Zélandais, c'est 194 plaquages. Il y en a 27 ratés quand même. Mais il y a aussi 6 turnovers, 6 ballons récupérés. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est bon, le fait qu'ils ont été très forts dans le jeu au sol, mais c'est la qualité de la lecture défensive néo-zélandaise. On sait que face à toutes ces petites animations irlandaises, c'est très difficile de bien lire. Et ils se sont très rarement trompés. Il y a eu souvent des jaillissements sur le joueur qui était servi. Ils arrivaient à bien défendre en zone comme ça quand ils étaient pas assez quand ils voyaient comment dire l'animation qui s'approchait, ils se mettaient en zone, ils passaient en zone en lecture et ils arrivaient à jaillir vraiment. Et sur la dernière action, c'est assez remarquable sur ce point-là aussi, à la fois la résistance physique, la discipline, puis la capacité à continuer à lire, à bien lire, à rester concentré là-dessus. Vraiment, quand on sait les dégâts que peuvent faire les animations irlandaises, le fait qu'ils aient concédé si peu de breaks, c'est remarquable.
On a vu aussi, Alex, la limite du système répétitif irlandais qui est basé sur une domination collective, mais qui manquait, on le savait, un petit peu de points d'ancrage en puissance. Ils n'ont pas un Aldrit, ils n'ont pas un Antonio, ils n'ont pas un Damien Penaud pour, à des moments, débloquer des situations autrement que par, comme tu l'as dit, leurs animations et leur maîtrise offensive collective. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression à la fin, parce que les Néo-Zélandais se gagnaient cette seconde supplémentaire et par leur travail dans les rucks, on en a parlé avant, on a eu l'impression que les Néo-Zélandais arrivaient à lire très bien les animations, arrivaient à remonter, et qu'en fait c'était un balai d'essuie-glace sans fin, et où inexorablement on avait l'impression que la défense allait prendre à un moment le pas sur l'attaque. Et très rarement dans ce match, en fait, on a vu l'attaque irlandaise se mettre dans des situations d'avancée qui lui a permis de nous laisser penser que l'attaque allait être décisive. Donc, c'est un travail d'équipe et les Néo-Zélandais ont fait un super travail dans les zones de ruck, on l'a dit avant, et un énorme travail défensif.
Il y a des
Donc, peut-être
sauvetages,
pour
on
arrêter.
pense à Jordi Barrett, là, ce sauvetage qu'il fait à un moment là aussi, c'est tout y est en fait dans cette rencontre, quoi.
Tout y est parce que effectivement, il y a des retournements de situation, il y a des résistances à 14 de la part des Néo-Zélandais, il y a des essais sauvés, il y a ce 13-0 avec l'Irlande qui réussit à revenir assez rapidement finalement. Et puis moi j'ai trouvé cet essai qui est sans doute a posteriori, c'est plus facile à dire, mais le tournant du match parce que c'est ce qui permet aux Blacks de faire le break sur une touche sur les 40 mètres, sur leurs propres 40 mètres au All Black. On va revoir la situation. Yannick, ton expertise sera la bienvenue. Là, le ballon est dans les mains d'Aaron Smith. Le ballon donc a été dévié. Le ballon est dans les mains d'Aaron Smith. Il va servir Mounga. Et là, j'ai entouré, c'est Sheehan, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est Sheehan. À son intérieur, il y a Byrne. Et à son extérieur, il y a Van der Flier. Et Aaron Smith va servir Mounga avec Will Jordan qui est dans son dos. Et là, la première chose qu'on voit, Yannick, je m'arrête si je me trompe, mais c'est que Sheehan a un large espace à couvrir.
Ouais. En même temps, les Néo-Zélandais ont pris le ballon devant. Sheehan, il est couvert à son intérieur par un partenaire, je pense à être Tash Byrne, avec le casque
C'est
bleu,
peur, ouais.
qui défend sur Aaron Smith. Donc, Sheehan, pour moi, il n'a pas trop d'excuses. Le 10 est sa cible, oui. Ritchie Moonga se tient loin grâce à la très bonne passe d'Aaron Smith pour rajouter de l'intention dans son duel. Mais pour moi, Sheehan va s'arrêter un petit peu en pensant que Moonga allait faire jouer les autres. Mais c'est
Voilà
Van der
sur
Flier
sur l'image d'après.
c'est Van der Flier qui va louper le plaquage. Voilà, mais je pense que Sheehan s'arrête un peu parce qu'on voit que Will Jordan, qui était à l'extérieur au début, il se retrouve à l'intérieur de Richie Mounga grâce à la course un peu en travers de Richie Mounga. À ce moment-là, Sheehan s'arrête un petit peu, et alors que Van der Flier pense que Richie Mounga est justement gardé par Sheehan. Et donc, c'est la fin de passe. Et au lieu d'être un passeur, il voit l'espace. On le voit sur le moment que il se dit c'est pas normal, mais j'ai un espace pour moi. On le sent dans son regard sur l'action et il traverse. C'est un moment décisif.
Il traverse, il va passer effectivement. Là, c'est Sheehan entouré en jaune et Mounga qui va passer dans cet intervalle entre Sheehan et Van der Flier. Derrière, il y a ce pilier. Je crois que c'est le pilier qui traîne, le pilier remplaçant là. Il est en retard ou pas? Je crois que c'est ici là. Un pilier remplaçant, il est en retard ou il est simplement
Ouais, pour moi, je pense qu'il est
comme
surtout mal
ça.
placé.
Ouais.
Il est mal placé parce que il est strictement dans l'axe de son talonneur, donc en fait il s'annule, sa position annule son rôle défensif et il défend sur personne puisque justement sa cible c'est Dantian. Ouais, effectivement, il est très mal placé. Bon, il faudrait revoir exactement parce que bravo Alex d'avoir fait une animation si rapidement parce que le coup de sifflet final
Il est rapide en fait parfois quand même, c'est
a eu lieu il y a 12 minutes.
ouf.
Mais il faudrait revoir le tempo de cette action, voir si les Néo-Zélandais ont gardé l'initiative par la vitesse et ont provoqué une erreur dans le placement des Irlandais.
Je crois que c'est ça.
Ce qui est remarquable aussi, pardon, et c'est pour
Vas-y.
ça qu'une grande équipe, c'est avant tout une cordée d'alpinistes. Juste avant, il y a une pénalité qui est récupérée par la Nouvelle-Zélande qui leur permet, alors qu'ils sont sous pression dans leur camp, je crois que c'est une pénalité récupérée sur la zone de ruck. Ça leur permet de taper en touche, d'avoir le bénéfice de se lancer et de vivre un moment clé du match. Donc, c'est toujours des enchaînements remarquables.
Je crois que c'est son 28e essai en 29 sélections, hein, quand même, sur ce coup. C'est pas mal quand même pour Will Jordan. Il
Ouais.
n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Et on rappelle aussi que l'Irlande est toujours aussi brillante dans les matchs de phase finale, parce que c'est terrible pour eux d'atteindre ce plafond de verre, de toucher ce plafond de verre. C'était l'équipe numéro 1 mondiale, ils étaient favoris. Et encore une fois, ils se sont tapés dès les quarts de finale. Et parfois, on se dit qu'un rugby peut-être parfaitement récité atteint ses limites aussi en Coupe du Monde, en fait.
Le malheur aussi, et je pense que la journée de demain va le confirmer, c'est qu'il y a vraiment un écart trop important entre les deux tableaux aujourd'hui, entre d'un côté France, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande, et l'Argentine et Fidji, Angleterre. L'écart est trop énorme et c'est injuste aujourd'hui que l'Irlande sorte en quart de finale. Et c'est vrai que ça va réveiller l'idée d'un côté maudit, d'une malédiction. Mais cette équipe fait partie des quatre meilleures, elle a sa place en demi-finale. Au même titre que la Nouvelle-Zélande, au même titre que la France, au même titre que l'Afrique du Sud, le tableau est ainsi fait. C'est un peu dommage parce qu'on a vu vraiment aujourd'hui, je vais être un peu méchant, mais il y a groupe A et groupe B quoi, sur les premiers quarts de finale. Et je pense que demain, on va avoir la même sensation.
Justement, vous voulez qu'on passe au match de demain ou vous voulez continuer un petit peu là-dessus? Parce que je sens qu'Alex va pouvoir parler pendant des heures de celui-là, de 2 heures de l'autre. Bon, on va basculer un peu sur le France-Afrique du Sud. Ce match, il est aussi très excitant. On ne sait pas si ce sera le même match, justement. À quoi vous attendez dans la physionomie, dans le style du match? Est-ce que ça peut ressembler à ce soir ou ce sera différent?
Ah, je pense que dans le côté suffocant et dans la pression qu'il risque d'y avoir sur le Money Time, je pense que les matchs vont se ressembler. Après, peut-être que le match sera moins enlevé que celui-là, parce que là, on a vraiment vu l'opposition entre les deux équipes les plus joueuses et peut-être les plus rodées collectivement sur le plan offensif. Donc on savait que ça serait une orgie de jeu positif. Je pense que demain, l'affrontement va être un petit peu différent. C'est un petit peu, et je t'en ai parlé avant, Jeff, la mère contre la fille, parce que on a deux équipes qui se ressemblent, et le staff de l'équipe de France ne s'est pas caché de dire que l'Afrique du Sud a été une inspiration pour eux. Dans la dépossession, dans les attaques éclairs, dans le kicking game, dans la puissance aussi qu'elles ont dans certaines lignes, si ces deux équipes se ressemblent. Donc, ça sera pour moi une opposition peut-être un peu plus musclée. Je ne pense pas qu'on verra des séquences à entre 15 et 30 temps de jeu demain soir, mais je pense qu'il y aura du suspense et je pense que les 20 dernières minutes vont aussi être suffocantes.
Alex, sur ce match, on a parlé toute la semaine de la composition d'équipe sud-africaine. On va en parler en détail, de la composition du banc, un 5-3. À un moment, on s'est dit on va faire un 7-1. Il y a même une rumeur, l'équipe de France aussi va faire un 7-1. Finalement, l'équipe de France a fait un 6-2 et l'Afrique du Sud a fait un 5-3. Est-ce que c'est assez étonnant? Finalement, ils l'avaient déjà fait plusieurs fois ces dernières semaines aussi. Ils sont capables de jouer dans ce style-là. Est-ce que c'est une surprise malgré tout?
Avant de répondre, je complète juste un truc par rapport à ce que dit Yannick, parce que je suis allé regarder le nombre de passes sur ce match. Avant le match, les moyennes, c'était autour de 190 passes par match pour les Irlandais et les Néo-Zélandais. Selon les stats d'Opta, ce soir, 322 passes pour l'Irlande. Je ne sais pas si ça a déjà existé, 322 passes, contre 135 pour les All Blacks. Et c'est tout ça pour dire que je pense que demain, les Français, Irlandais, les Français et Sud-Africains, c'est 130 passes par match à peu près. Donc, a priori, on n'aura pas un tel volume de déplacement, de mouvement, on va dire. Pour parler du 5-3, effectivement, c'est une surprise. Je pense que le staff, y compris le staff de l'équipe de France, a été surpris. Ils sont venus en conférence de presse juste après
Ouais.
l'annonce des box et ils ont marqué
Qui
leur
avait
surprise.
décalé leur équipe, hein, les box. Normalement, ils l'annoncent un peu plus tôt et ils voulaient
Voilà.
faire une petite surprise et ils l'ont fait, ouais.
Donc, je pense que ça, le 5-3 fait partie des surprises. Liboc en 10 fait partie des surprises. Reinach en 9 aussi. Le 5-3, en tout cas, c'est pas ce qu'attendait le staff. Mais je vois Yannick qui fait la moue. Le 5-3, je ne sais pas. Moi, j'ai la sensation que leur idée, c'est qu'ils ont besoin d'un buteur sur le banc, un buteur fiable sur le banc. Ce buteur fiable ne peut être qu'André Pollard. Et André Pollard ne peut pas jouer dans un 6-2, je pense, puisqu'il n'est pas polyvalent. Donc, il faut un troisième trois quarts. En 2019, quoi, celui qui faisait le deuxième trois quarts sur le banc, c'était François Stein qui pouvait jouer arrière. Enfin, il pouvait tout jouer
Partout, ouais.
d'ailleurs. Il pouvait jouer
Partout, ouais.
10, centre. Il avait déjà joué à l'aile aussi et il pouvait jouer arrière. Là, j'ai la sensation, Yannick, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois une autre explication possible?
Non, je pense que tu as bien cerné le problème. Après, sur la présence de Liboc, je crois que c'était dans un salon tactique. Hein, on avait échangé nos points de vue. Et il me semble, ou je ne sais pas si c'est à toi que, ou à vous que je l'avais dit, moi je. J'avais dit que les Sud-Africains sont déjà obstinés, conservateurs. Et ils avaient tracé un sillon avec Manny Leeboch et ils n'allaient pas le destituer pour quelques coups de pied manqués. Et ils ont aussi cette volonté de montrer aux gens que leur choix était le bon. Et je m'attendais à ce qu'ils reconduisent Manny Leeboch parce que ce sont déjà assez conservateurs et dans la façon dont ils construisent leur squad, dans la façon dont ils aussi nomment leur caisse de départ. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, je n'étais pas surpris de voir Manny Leeboch. Comme tu l'as dit, pour moi, Pollard sur le banc, parce qu'ils se disent, s'il est à nouveau dans un jour sans, on doit être capable de le coacher. Je pense que c'est un premier point. Je pense que le deuxième point, tu l'as ciblé, c'est son manque de polyvalence. À partir du moment où Pollard est sur le banc, il aurait fallu qu'il soit polyvalent, mais il ne l'est pas. Donc, le 5-3 s'impose. Après, aussi également surpris par la titularisation ou la non-titularisation de Faf de Clercq, qui est un de leurs joueurs clés. Il a dû jouer tous les matchs clés depuis, en tout cas les 10 derniers matchs clés des Springboks. Donc, je suis surpris de voir la titularisation de Cobus Reinach. Pour moi, ça montre que les Springboks s'attendent à 20 dernières minutes suffocantes et ils veulent avoir leur buteur, leur stratège. Et des gens qui sont capables de tenir le match dans les 20 dernières minutes par le kicking game, ce qui n'est peut-être pas la force de Cobus Reinhardt. Donc, je pense que ce 5-3 chez Sudaf, ça annonce qu'ils s'attendent à 20 dernières minutes de money time très, très stressante.
Sur
Est-ce que ça peut
vas-y Alex, vas-y Alex.
Est-ce que Reinach en 9, c'est un joueur avec un style un peu différent, il porte un peu plus le ballon, même beaucoup plus, sensiblement plus le ballon
Il marque aussi,
que
non?
Leclerc. Il marque, il va assez vite, il est costaud, il est un peu plus costaud que Faf de Clercq. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont envie d'amener du danger autour des zones, des points de rencontre, autour des rucks, autour des touches ou des mêlées via des combinaisons?
Ouais, je pense que c'est clair qu'il va amener de la dimension physique. Parce que Cobus Reinhardt, c'est avant tout un fantastique athlète. Donc je pense qu'ils ont envie d'avoir un neuf qui va sniper peut-être Mathieu Jalibert, quelqu'un qui va mettre une grosse pression aussi défensive avec des montées en sprint. On utilise souvent l'expression sniper le 10 adverse, donc je pense que Reinach, ça va être une de ses missions. Et comme tu l'as dit, il va porter le ballon autour des rucks sûrement. Il a montré sur le dernier match qu'il avait été décisif, il a marqué, il a vraiment amené de l'impact physique. Peut-être qu'il compte sur lui aussi pour mettre un plus gros impact physique sur Antoine Dupont. Je ne sais pas, honnêtement, j'ai été surpris de cette titularisation. Autant j'attendais Manny Leeboch, mais je ne pensais pas que Reinhardt remporterait le numéro 9.
Le fait qu'ils jouent en top 14, qu'ils connaissent bien les joueurs de l'équipe de France, qu'ils connaissent un peu aussi Antoine Dupont, est-ce que ça peut jouer?
Ouais, clairement, je pense. Je pense. Les SUDAF, c'est sont des gens qui étudient tout. Ils font confiance à leur groupe. C'est une partie d'échecs. Il y a toujours un plan vraiment clair. Et leur expression, c'est stick to the plan. Faut coller au plan. Faut comprendre le pourquoi. Connaître les détails. Donc, ils conçoivent un plan toujours face à l'adversaire. Donc, ils doivent avoir une stratégie bien en tête et ils font confiance à leurs 33 joueurs aussi. Voilà, on peut être surpris aussi de voir la présence de Vincent Koch sur le banc, pilier droit remplaçant, alors que Trevor Nyakane a été là sur tous les matchs importants, sur les 4-5 derniers matchs. Donc, ça montre vraiment qu'ils font confiance à tout leur squad. Jasper Wiese aussi, qui est quand même dans la dimension physique, qui est celui qui a le plus joué aussi ces 10 derniers matchs cruciaux des Springboks. Et c'est Dwayne Vermeulen qui emporte le pompon. Ouais, il y a quelques choix quand même qui sont surprenants. Il n'y a pas de hasard. Ils doivent avoir un plan, ils ont probablement privilégié, comme tu le dis, les joueurs qui connaissent le top 14, qui connaissent les joueurs français. Ça a sûrement dû jouer.
J'ai une question aussi pour vous, messieurs. C'est Gaël Ficou qui disait ça cette semaine quand il a pris la composition d'équipe. Il disait les Boks vont vouloir peut-être mettre plus de vitesse que d'habitude, imposer plus de rythme. Est-ce que c'est possible ça?
C'est quand
C'est déjà
même.
leur idée, hein.
Ouais, c'est ce qu'ils font un peu plus hein, depuis on va dire 12 ou 18 mois. Ils ont davantage d'initiatives dans leur camp, ils utilisent un peu moins les maulls, un petit peu plus la vivacité de leur ligne de trois quarts. Mais je pense quand même que, je sais pas, là y a une vraie question, ça va être intéressant de voir les 20 premières minutes. Ils l'avaient fait à Marseille. Un peu à mauvais escient, je trouve. Pour ma part, je pense pas qu'ils vont trop changer. Voilà.
Donc toi, Alex?
On va montrer une infographie qu'on a publiée cette semaine dans le journal. On a recyclé, qui raconte l'évolution de l'équipe de 2019 à aujourd'hui. À gauche, vous avez le nombre de mauls par match. Et ici, là, on m'a souri. Ils étaient à 6 contre 4,5 cette année. Mais ce n'est pas forcément le chiffre le plus intéressant. Le chiffre le plus intéressant, c'est à quel point ils poussent ces mauls. En 2019, ils menaient ces mauls beaucoup plus loin, 5 mètres de plus qu'ils ne les mènent aujourd'hui. Aujourd'hui, leurs mauls, je pense, leur servent avant tout à lancer le jeu, à faire des mauls furtifs. Les jeux au pied par match, il y en avait 8 de plus. Sur le nombre de passes, ici dans la colonne du milieu, on voit il y a 40 passes d'écart quasiment. Qu'on voit que les ballons portés, donc c'est les ballons sur lesquels le joueur, quand un joueur court avec le ballon, c'est pareil, il y a beaucoup plus de ballons portés. Mais en termes d'efficacité, l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous. On avait comparé les trois matchs de phase finale de 2019 avec les deux matchs contre l'Écosse et l'Irlande sur ces stats. On voit que l'efficacité en termes de points n'est pas forcément au rendez-vous. C'est évidemment beaucoup lié au déficit de buteurs. Mais on voit aussi que dans le jeu, voilà, ce n'est pas le même nombre d'essais, les franchissements ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est une équipe qui est en train d'évoluer, mais qui ne trouve pas non plus complètement une pleine efficacité pour l'instant. Il faudra voir demain. Ce qui est sûr, c'est que le simple fait qu'ils fassent jouer Manny Libok indique qu'ils vont tenter de porter un peu le ballon. Alors, c'est pas non plus, ça sera pas ni l'Irlande ni l'All Black. Hein. C'est-à-dire qu'ils font, comme on l'a vu, 130 passes par match. 130 passes par match, ça correspond au total sur cette Coupe du Monde de l'équipe de France, dont on sait que c'est pas l'équipe la plus expansive. Donc, ils sont pas non plus, ils ont pas pris un virage à 180 degrés. Ils sont sur un jeu un peu plus riche, mais en gardant quand même une base avec du jeu au pied, mais aussi beaucoup d'affrontements. Quand on a Dehaliende et Krylo au milieu du terrain, on ne peut pas non plus déplacer le ballon aux quatre coins du terrain avec de la vitesse, avec des.
Et rassurer les amateurs de mêlée, il y aura quand même plus de mêlée que ce soir, là, parce que ceux qui aiment les mêlées, ce soir, ils n'ont pas été gâtés. Demain, il y en aura un peu plus quand même, non?
Ah, mais tu sais, c'est souvent le cas sur les matchs internationaux et ça pousse aussi à la réflexion, puisque dans un vieux raisonnement, on disait, bon, on met le pilier costaud en mêlée au début et après on fait rentrer les piliers plus dynamiques. Et finalement, sur les matchs internationaux, sur les gros matchs internationaux, tu te rends compte qu'il y a souvent très peu de mêlées jusqu'à la 50e. Par contre, les mêlées de fin de match sont souvent cruciales. Et on l'a quand même vu un peu aujourd'hui avec des pénalités concédées par l'équipe d'Irlande qui ont été cruciales et plutôt dans la deuxième partie du match. Donc, j'ai envie de dire que la spécificité de la mêlée au niveau international, c'est que souvent, comme on a affaire à des joueurs qui ont une expertise technique et des skills de haut niveau, il y a peu d'en avant. Il y a également la règle de l'avantage qui est vraiment mise appliquée à l'extrême par les arbitres internationaux parce qu'ils veulent du spectacle. Donc, ce qui donne souvent pendant les 50 premières minutes peu de mêlées et c'est pas rare d'avoir la première mêlée 32e, 33e, 34e minute avec au contraire plus de mêlées qui reviennent sur la fin du match, dans les money time ou sur les avantages des équipes choisissent la mêlée. Il y a de la fatigue, donc il y a quelques fautes de main également. Donc, le cliché du top 14 tombe un peu quand il s'agit du niveau international.
On peut montrer un
Alex,
peu là,
vas-y, vas-y.
on va voir des matchs des Springboks sur la chaîne. Donc, on va montrer un peu ce qu'essayent de faire les Box qui ne faisaient pas beaucoup lors de la Coupe du Monde 2019, notamment. Là, c'est un ballon contré sur une touche dans leur camp face à All Black en août dernier. Et là, on voit que malgré les mauvaises passes, ils vont amener le ballon sur l'aile opposée. Bon, ça, à la limite, sur un ballon récupéré, c'est normal. Ils ne vont pas avancer, mais sur le retour, au lieu d'aller affronter, ils vont jouer dans le dos et faire à nouveau la bascule.
Et là, on voit
Ils jouent dans le couloir opposé à la manière de Clermont de Vern Cotter, un peu en 2000, 2007 notamment. Et la même chose. Avec un jeu là, on voit le bloc où les trois avant qui ont fait la passe dans le dos à Liboc. On va reprendre le milieu du terrain et il va y avoir cette attitude de Snyman qui, alors que c'est plutôt un joueur de défi, et les deuxièmes lignes sud-africains sont plutôt des joueurs de défi, qui va tenter une passe au contact qu'il va rater. Peut-être que d'ailleurs là, dans cette action-là, on voit justement on perçoit peut-être un peu pourquoi les Box manquent d'efficacité dans leur nouveau jeu. Il y a une autre action que j'ai gardé d'un match contre le Pays de Galles, c'était en août aussi, sur un long jeu au pied gallois. Ils vont choisir de garder ce ballon, de le lancer depuis leur camp. Et pareil, on va revoir qu'ils vont d'abord écarter le jeu côté droit avec Dutoit qui va faire sur le couloir, qui va faire une passe à l'intérieur au contact à Adebayande. Ils vont renverser le jeu. Pas directement, avec plusieurs phases, mais là, à nouveau, on voit la cellule de trois avant au milieu du terrain. Et au lieu de servir le premier, Willy Leroux, placé en position numéro 10, là, va servir le troisième, ce qui va permettre d'avancer un peu. Et ils vont, en fait, en se passant le ballon comme ça, ils vont aller dans le couloir opposé petit à petit. Et ils vont trouver un déséquilibre là-bas sur Colby. Voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup avancé sur ces phases-là au départ, mais ils ont quand même continué à se transmettre le ballon sur la largeur et jusqu'à trouver un décalage. Et à la fin de cette action, ils obtiennent une pénalité qu'ils vont jouer vite et ils vont finir par perdre le ballon. Je n'ai pas tout gardé parce que ça aurait été trop long. Mais voilà, on voit que c'est une équipe qui déplace plus le ballon. Peut-être qu'il y a 4 ans, De Clercq aurait plus vite coupé cette action par un jeu au pied haut, ou que le jeu, s'ils avaient joué, le jeu aurait été beaucoup plus direct. Yannick?
Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi. Après, sur le match de la Nouvelle-Zélande, bon, c'était la 75e, il y avait 35 à 3, donc bon, il y avait un carton rouge contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, donc bon, il y avait plus de facilité à déplacer le jeu. Moi, je crois que ils ont élargi leur palette. Les Springboks, c'est très clair, avec voilà, une période de mue qui date d'il y a 14 mois, 14-18 mois. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ont un plan. Que chaque fois qu'ils jouent une équipe, Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez eux. Ils ont un plan vraiment précis. Si le plan précis, c'est de partir du principe que l'adversaire est moins en forme physiquement qu'eux, et qu'il faut le faire courir sur du kicking game, et qu'il faut forcer l'adversaire à faire des cycles de sortie de camp qui consomment beaucoup d'énergie, parce qu'il faut se replier, faire des cellules de jeu, faire le petit train, taper, chasser, ils peuvent, peut-être qu'on va assister, s'ils sont partis du principe que. Ils pensent qu'ils peuvent briser physiquement le 15 de France. On pourrait assister à une énorme bataille de kicking game pour faire déplacer énormément les avants français et très peu de jeux de passe. A contrario, je ne sais pas si contre les Gallois, ils avaient peut-être décidé de déplacer beaucoup le ballon parce qu'ils avaient trouvé que la défense galloise pouvait être contournée, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils auront un plan. Ce qu'ils ont fait dans le passé, ça ne sera pas comme l'Irlande, pour moi. L'Irlande, on sait quand on joue l'Irlande ce qui va se passer sur un plan offensif. Contre les Sudaf, ils ont élargi leur palette et il y aura, enfin, on aura des éléments de réponse demain parce que je suis pas certain de la façon dont ils vont aborder le match.
Yannick, ce que tu veux dire, c'est que l'Afrique du Sud identifie bien les points faibles des adversaires et du coup adapte son jeu véritablement par rapport à ça pour appuyer là où ça fait mal, quitte à délaisser certaines forces, vraiment insister sur ces points faibles de l'adversaire.
Ouais. Non, non, complètement. C'est une stratégie militaire. Ils ont un plan, ils l'appliquent, il est partagé avec les joueurs, il est réfléchi. Moi, j'ai vraiment été marqué par ça chez eux. Et une fois qu'ils l'ont validé, tout le monde se conforme à la stratégie. Donc, c'est pour ça que des fois, on les trouve aussi monocordes et répétitifs dans l'application justement de la stratégie d'avant-match. On le voit, ils ont fait 7-1. 6-2, là ils sont passés sur un 5-3. Ils ont gagné en capacité d'adaptation. Ils ont gagné en capacité d'entretenir l'incertitude. Je pense qu'ils voulaient rajouter cette corde à leur arc. Et c'est quand même réussi, puisque aujourd'hui on dit, ah bon, ils nous ont surpris. On ne pensait pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont jouer? Je pense que c'est déjà une première petite victoire pour
Si vous le voulez bien,
Mais
monsieur, on peut
Fouquet,
passer
pour.
justement. Vas-y, Alex, vas-y.
Juste à une chose, parce que Yannick, il a dit quelque chose tout à l'heure sur le match de novembre, c'est qu'ils avaient effectivement essayé davantage attaquer depuis leur camp sur des jeux au pied français. Ils avaient aussi essayé de taper dans les couloirs avec Willy Leroux ou Willemse. Et ça ne leur avait pas forcément réussi. Ce n'est pas ça qui leur avait permis d'être dans le match. Ce qui leur avait permis d'être dans le match, c'est quand ils étaient revenus un peu à leur jeu
De
traditionnel,
base,
qui s'était passé
basique.
à 14, avec du jeu au pied, des mauls. Ils avaient vraiment dominé les Français sur les mauls. Alors, c'est pour ça que je trouve un peu étonnante la titularisation de Liboc. C'est que je me dis, mais Liboc, qui correspond au jeu de novembre dernier. Mais peut-être aussi que simplement, ils mettent Liboc parce qu'ils pensent que Pollard n'est pas prêt, mais qu'ils vont être en revanche dans le même plan que celui de novembre dernier, qui leur a réussi, c'est-à-dire des ballons portés, du kicking game et un gros défi physique. Voilà, c'est.
Ouais, puis je crois aussi que sortir Liboc, pour eux, ça serait un aveu de faiblesse. Ça voudrait dire donner raison à ceux qui ont critiqué le fait qu'ils jouaient sans un buteur, un vrai buteur. C'est un pari qu'ils ont pris il y a plusieurs mois déjà, Manny Liboc. Il a joué beaucoup des matchs cruciaux des Bocs dernièrement, Pollard étant blessé ou en disgrâce. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de donner raison à ceux qui disaient qu'ils avaient tort. Ils ont un côté obstiné, fier, et c'est vraiment dans la mentalité sud-africaine ça.
Mais si on va passer au deuxième thème sur comment les Bocs justement mettent la pression à chaque instant, Yannick, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, tous les deux, on verra un peu ça dans le journal de l'équipe demain. C'est toutes les petites batailles que cette équipe sud-africaine veut gagner. Les joueurs sont, comment je pourrais dire, programmés pour gagner telle bataille, telle bataille, telle bataille, c'est ça un peu dans le plan de jeu?
Ouais, disons que on a parlé de leur stratégie de jeu, de leur plan, mais et les joueurs, ils ont aussi une checklist avec des choses très précises sur lesquelles ils sont missionnés et évalués également. Et donc, ça donne, on le verra sur les animations d'Alex, ça donne une impression collective d'étouffement. C'est-à-dire qu'ils mettent l'adversaire sous pression en permanence, ils mettent la technique individuelle des joueurs sous pression, ils mettent tous les petits moments du match où on pourrait se relâcher, ben, il y a toujours un Springbok missionné pour mettre la pression. Ils ont vraiment une stratégie d'étranglement de l'adversaire. Mais l'équipe de France est pas très loin de ça aussi, tu vois. Donc, c'est ce qui va rendre l'affrontement de demain vachement incertain et intéressant aussi.
Alex, tu as
On
bossé
va
un peu, tu as
regarder
des
ce
choses
que.
à nous montrer. Oui. Merci,
Alors
Alexandre.
là, ce n'est pas moi qui ai bossé, c'est Yannick qui nous a envoyé très tôt dans la semaine quelques images. Alors, il avait envoyé en vidéo, et évidemment, on ne peut pas utiliser les vidéos des matchs de la Coupe du
Il veut qu'on
Monde.
ait des procès, lui, mais
Donc,
voilà.
voilà, on a simplement fait des captures. Là, c'est une touche irlandaise à 5 mètres de la ligne irlandaise. C'est donc le match Irlande-Afrique du Sud, le match de poule. Le ballon a été dévié sur Gibson Park, et là on voit tout de suite le plaquage de Mostert qui va. Il sait qu'il a très peu de chances de prendre Gibson Park avec le ballon, mais il fait l'effort, il va jusqu'au bout. Il va mettre au sol Gibson Park. Après la passe, les Irlandais vont réussir à créer un point de fixation en avançant un tout petit peu. Et on voit au sol Dutheuil qui va faire le combat au sol pour essayer de récupérer le ballon. Ici derrière, on voit Malherbe. Qui est au sol, qui va se relever. Après s'être relevé, il va lui-même aller mettre la pression avec une poussée de bas en haut, comme ça, pour gêner Byrne en train dans son déblayage. Et on voit à gauche ici, Eben Etzebeth, qui lui est en chasse, on va dire, en quelque sorte, en observation. Et il va monter au contre sur Gibson Park. Et les résultats de ces quatre actions individuelles, c'est que la touche va être retrouvée à une touche de 3 ou 4 mètres et que ça va permettre aux Sud-Africains de rester dans le camp irlandais. C'est une sortie de camp irlandaise complètement perturbée, en fait.
Ouais.
Oui, tu vas intervenir.
Et Ben, il contre même Gibson Park, hein, sur ce
Ça,
coup-là.
ouais.
Je me souviens très bien de cette action où juste après, il y a Faf de Klerk, il vient taper dans la main de Klerk, d'Eben Etzebeth pour dire bravo, le job a été fait. Et si vous suivez Frans Malherbe de demain, vous verrez le nombre de fois où il se met en piston devant les rucks de sortie de camp de l'adversaire. Et comment il vient générer du stress. Gibson Park, tu as très bien vu Alex, le coup d'avant, il avait été pris presque à vide par Peter Steph du Toit ou par Monster. Par Monster, c'est pas innocent non plus parce qu'il fallait le mettre en essoufflement, lui mettre la pression pour que justement Eben après puisse le contrer. Donc voilà, c'est ça dont on parlait.
On
C'est
peut
vraiment
montrer.
parfaitement rodé, ouais.
On peut montrer autre chose là. Tu parlais de Malherbe. Une autre action que tu as retenue, qu'on ne va pas pouvoir voir évidemment à la longueur, mais qui reste intéressante. Donc là, il y a eu un lancement de jeu. Les Irlandais avancent dans la droite vers la gauche. Et il y a eu une touche avec un lancement de jeu autour de Bundiaki. Et dans son replacement, Malherbe va se mettre ici, dans le dos de Bundiaki et de Gibson Park. Et dans le carré ici, il y a Van der Flier qui ne va pas pouvoir, on va le voir sur la capture suivante, faire un déblayage efficace, puisque Malherbe est là dans cette position où il traîne. Normalement, il n'a pas trop le droit d'être là, mais il traîne et c'est bien fait. Donc Van der Flier, il ne peut pas aller déblayer sur le ballon, il est gêné par Malherbe et ça laisse le temps à Colby de récupérer le ballon au sol. Je crois qu'il y a un grattage sur le cou. Autre situation, là, alors là,
Ouais, là,
peut-être
c'est.
juste Yannick te
Ouais, non,
lancer là-dessus. On est plutôt
pardon.
sur le jeu au pied,
Je
là,
veux
sur l'exemple suivant.
revenir sur ta capture d'écran d'avant, parce que si tu veux, si vous regardez l'Irlande, sur tout leur premier temps de jeu, le premier joueur à arriver pour sauver le ballon sur zone de ruck, c'est Van der Flier. C'est son rôle, c'est le punt side flanker. Et donc les Sudaf, ils ont travaillé là-dessus, ils ont dit, il faut le retarder d'un mètre. Si on retarde ce mec d'un mètre, on va ouvrir une chance. Et c'est là où on voit le schéma collectif, entre guillemets, qui est presque toxique, hein, pour les puristes du jeu, mais qui force la faute de l'adversaire. Sur la diapo d'après, je l'avais trouvée super intéressante, Alex. Et celle-là, je la connais presque par cœur, parce que on a travaillé on a fait un petit séminaire sur le jeu des Springboks. Ça, c'est là, donc les Springboks viennent de prendre des points. Donc il y a un coup d'envoi qui est tapé sur Tashburn. Donc on voit le bloc de 3 qui a lifté Burn. Il y a Peter Steph du Toit, juste avant qu'il arrive. Déjà, première chose, il y a Colby et Klein. Ils font le tour du ruck, puisque tant qu'il n'y a pas encore de Sud-Africains au contact de ce groupe de 3 joueurs irlandais qui possèdent le ballon, il n'y a pas de ligne de hors-jeu. Donc on peut très bien arriver par le camp irlandais pour arracher le ballon. C'est ce que fait Klein. Donc première bataille qu'ils exploitent. Ensuite, donc ils ont réussi à aller au sol. On voit que Peter Steph du Toit, comme l'avait fait Malherbe tout à l'heure, il vient contre-ruquer et mettre la pression sur le ruck de Gleeson Park.
Bonhomme de faire la même chose en suivant.
Les Irlandais vont faire leur cellule à 3 joueurs pour se donner de l'angle dans leur jeu au pied, ce qui est classique dans le rugby moderne. Là, si on regarde la phase d'après, je crois que tu l'as, Alex. Ouais,
Ah,
non, la phase
j'ai
d'après.
avancé plus loin. Ouais.
Ouais, alors, reviens juste sur celle d'avant, si, excuse-moi. Donc là,
Ouais.
les Irlandais vont faire une phase à peu près sur la croix des 15 mètres, des 22 et des 15 mètres. Là, les Sudaf vont encore plaquer bas, contre-requer. Ça sera pas Malherbe, mais c'est Oxentier qui va le faire avec Bongi et Mbombambi. Donc il va y avoir une succession de contre-ruck. Les Irlandais vont venir nombreux pour sauver ce ballon. Et quand ils vont réaliser leur jeu au pied, là tu peux passer sur la diapo d'après, les Irlandais vont réaliser leur jeu au pied qui va être récupéré par les Sud-Africains. Mais ils avaient mis tellement de joueurs pour arriver à sauver le ballon. Et on les voit ici, si vous regardez en bas de l'écran, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 Irlandais dans les 15 mètres. Ça veut dire que sur la récupération de balles, les Sud-Africains vont avoir exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une concentration d'Irlandais qu'ils ont amené là par leur combat qu'ils ont proposé, et une opportunité de jouer un 4 contre 9 sur l'extérieur. Malheureusement, comme un Faf de Clercq, mais des fois il a un peu des œillères, mais ça doit être le seul qui n'a pas vu ce surnombre. Il va faire la feinte de passe, et ils vont pas jouer ce coup. Et je vous avoue que quand on a étudié ce mouvement sud-africain, on a trouvé c'était criminel, le choix de Faf de Clercq. Mais ça illustre un peu aussi les forces et les limites aussi de cette équipe sud-africaine qui se donne les moyens de créer des scénarios très positifs d'attaque et qui ne les joue pas forcément parce que leur ADN n'est pas forcément sur la lecture non plus.
Parce qu'ils n'ont pas l'habitude suffisamment, Yannick, c'est ça que tu veux dire? Ils ne le font pas. C'est pas dans leur
Ouais,
culture.
parce qu'ils ont la capacité à exécuter un plan, mais ils n'ont pas la capacité à lire les choses, à communiquer, à voir les surnombres.
Ouais.
Sur le match contre l'Irlande, l'Afrique du Sud, ils ont bouffé, passez-moi l'expression, un nombre de surnombres offensifs juste affolant. Le nombre de turnovers qu'ils ont généré, des ballons comme ça, il y en a eu 3 ou 4 contre l'Irlande.
Ouais.
Donc les Sud-Africains ont le défaut de leur qualité. Ils sont parfois formatés et quand le plus facile arrive, eh bien, ils ne le jouent pas.
On va regarder autre chose sur les jeux au pied. Là, on est sur les renvois avec
Ouais.
les montées. Là, c'était l'Afrique du Sud, Tonga. Les montées très rapides des deux deuxièmes lignes qui montent quasi. Enfin, là, je pense qu'ils avaient étudié le fait que les Tonga choisissaient de taper très directement. C'est ça, hein, Yannick?
Ouais, et aussi que leur 10. Des fois porter le ballon avant de frapper. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment ils vont agir sur Mathieu Jalibert et Thomas Ramos et Antoine Dupont, qui sont nos principaux botteurs, sur tout leur jeu au pied de chasse et notamment sur coup d'envoi. Le 4 et le 5 sud-africains sont missionnés pour sprinter. Ça sera, il faudra regarder demain. Je pense que Eben Etzebe, on ne le verra pas. Au moment où le buteur sud-africain va prendre son élan pour taper, on ne le verra pas parce qu'il démarre avec 10 mètres d'élan et il n'est pas dans le
Oui,
champ
c'est
de la
vrai.
caméra pour arriver lancer. Mais et le résultat de ça, c'est qu'il est souvent devant les ailiers. Ils ont un 4 et un 5 qui ont une mobilité assez incroyable dans les chasses puisqu'ils mènent le sprint et ils contrent souvent les 10 adverses parce que ça fait partie de leur mission.
Là, il y a contre. Et
Ouais, là, il y a contre.
sur une autre, j'ai pas gardé, alors zut, je me perds dans mes vidéos, mais il y en a une autre où il y a contre. Je ne sais plus où elle est, mais
Là,
je pense
vous
que
intégrez l'ordinateur, vous
je vais te la
intégrez
garder.
l'ordinateur d'Axe Vardo là, non?
Ah, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. J'ai oublié que les gens nous regardent.
Ouais. Il est tard, Alexandre, pour toi.
Et en tout cas, il y a un autre exemple de voilà, le ballon était contré là, il y a un autre renvoi contre Tonga où le ballon est contré, et il y a un autre renvoi, un dernier, où on voit Etzebeth qui part à la conquête du ballon, un renvoi plus court. On parlera tout à l'heure peut-être des renvois, parce qu'il y a peut-être un truc à utiliser sur les renvois offensifs contre eux, ceux qu'ont fait les All Blacks, qui est peut-être utilisable. On parlera, on montrera à Yannick, on verra ce qu'il en pense. J'avais aussi.
Non, non, mais ça sera. Ça va être intéressant de voir demain le niveau de pression qu'ils vont mettre sur nos botteurs, parce que c'est quelque chose qui travaille beaucoup, et moi ça m'a frappé dans le jeu sud-africain. Ils récupèrent beaucoup de coups d'envoi. Ils mettent énormément de pression sur les receveurs et sur les botteurs adverses. On a vu Colby souvent être capable de marquer dès le coup d'envoi sud-africain, de le récupérer à la manière d'un corner de foot. Si ce n'est pas ça, il y a cet enchaînement de petits jeux de pression sur l'adversaire pour générer des bons ballons de contre-attaque. Moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré et qui est inspirant. C'est la pression qu'ils mettent sur leur jeu au pied.
Une autre pression, c'est plus connu, mais je pense que quand on joue les box, c'est toujours intéressant à remontrer, parce que c'est les maîtres de la rush défense et de ce système-là. Et notamment, ils envoient ce qu'on appelle des voltigeurs dans le camp adverse pour couper les extérieurs et couper les possibilités de passe. On va regarder là une vidéo contre les All Blacks. Au début, c'est donc Dutoit qui va le faire. Dutoit ici, au milieu de ma souris. Il va monter plus vite que les autres, empêcher une petite passe. Il va refaire l'effort une deuxième fois, ce qui est quand même très, très énergivore hein, de faire ça. Sur le côté fermé, on va voir que, pareil, les joueurs extérieurs vont monter un peu plus vite. Quand le jeu va se retourner, c'est Faf de Clercq qui va le faire. Avec une montée vraiment en voie de l'extérieur vers l'intérieur. Il t'a laissé beaucoup d'espace dans les couloirs et la Faf de Clercq va refaire l'effort à nouveau, une grosse montée. Et donc les Blacks sont obligés de rester dans cette bande de 20 mètres et ça fait que ça favorise évidemment la défense sud-africaine qui est très lourde, très costaud, très puissante à l'impact. Donc quand les All Blacks reviennent dans cette zone-là, ils ne sont pas en position de force. Là, c'est une autre situation. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Vous allez voir cette série de plaquages sur les trois premiers porteurs néo-zélandais. Les trois vont se retrouver au sol à la suite, comme des quilles. Le premier, boum, en retard. Le deuxième, le troisième. Les trois, ils sont obligés de faire. Alors, on voit aussi que ça fragilise en quelque sorte, parce que quand le ballon continue à vivre, ben, comme tous les joueurs se sont concentrés, enfin, comme beaucoup de défenseurs se sont concentrés sur une zone, ben, si on arrive à déplacer le ballon à côté, il y a de l'espace. Donc là, Mounga va avancer, mais regardez le retour de Dutoit et regardez la suite, même en déséquilibre. Regardez, les Sud-Africains continuent à monter. Toutes les passes sont difficiles, tous les impacts sont lourds. Là, boum, sur Cannon Moody, sur Aaron Smith. C'est une pression maximale et c'est permanent. Et là, c'est contre l'Afrique du Sud. Et là, on va voir quelque chose qui est remarquable à nouveau chez les Sud-Africains, c'est qu'ils vont se retrouver d'abord, dans un premier temps, en difficulté. Ils vont perdre le ballon sur le jeu au pied. Des Gallois. Et on va voir qu'il va y avoir un gros déséquilibre. Regardez où est Jasper Viseux. Il est ici, au début de l'action. Les Gallois vont écarter le ballon. Krill, je crois que c'est Krill, là, qui va monter en pointe pour essayer de bloquer le ballon. C'est Aliendé. Puis Krill. Voilà. Mais les Gallois arrivent à mettre le ballon à l'extérieur. Et là, en fait, la défense sud-africaine qui a concentré sa pression dans une zone du terrain, elle est débordée. Mais ce qui est remarquable, c'est la vitesse avec laquelle elle avait regardé Sia Colissi qui est en train de revenir au. Qui ne relâche pas son effort. Regardez Viseux qui était tout à l'heure dans le couloir à l'opposé, qui se replace pleine balle. On a Snyman, on a ici, c'est Lankline, je pense. Les Sud-Africains vont réussir à recréer une ligne défensive. Il va y avoir un premier temps de jeu. Regardez, la ligne défensive, elle est parfaitement recréée. Ils viennent de prendre 60 mètres dans la vue quand même. Ils vont mettre la sur le premier plaquage et sur le ruck. Là, déjà, on a perdu les Gallois ont perdu le momentum, perdu le tempo dans leur attaque. Et Dutoit va monter en pointe et ça va faire grattage pour Marx. C'est redoutable parce que même quand ils sont battus, en fait, ils ont une capacité de replacement exceptionnelle. Excusez-moi, je suis perdu à nouveau. Ils ont une capacité de replacement exceptionnelle. C'est un état d'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà même
Ouais.
du style défensif, c'est être capable de revenir comme ça, de réalimenter, de remettre la pression, de se dire, tant pis, on laisse des espaces, mais on va revenir, on va courir. C'est un état d'esprit formidable.
Et ce que tu dis, pour moi, c'est leur raison d'être, les Springboks, et c'est aussi leur fierté, ce à quoi ils se rattachent tous. On est sélectionné chez les Springboks si on a la capacité de travailler dur pour le collectif, sans le ballon. Souvent, l'action que tu as montrée, je pense, elle est hyper pertinente, et c'est exactement ce qui symbolise pour moi les Springboks. Une vitesse de replacement, même quand il y a un déséquilibre qui est créé contre eux, en 2 secondes, ils reconstruisent leur ligne. Et même souvent, en tant que coach, quand on fait de l'analyse vidéo contre eux, sur un clic de souris, on dit « Ah, le coup, il est bon à l'extérieur. » Et 1 seconde après, ils ont replacé 3 joueurs et le coup n'est plus bon. Ça veut dire que quand on attaque, si on ne prend pas la bonne décision au millième de seconde, le tunnel se referme immédiatement. Donc, c'est vraiment ce sur quoi ils capitalisent. Et oui, il y a des risques avec cette rush défense. On l'a vu, Krill qui dézone complètement, qui vient sniper un gars. Mais c'est un risque assumé. Ils veulent mettre la technique individuelle de l'attaque adverse sous pression. Et si, dans ce contexte-là, ben, elle arrive quand même à se faire les passes, souvent c'est au prix de passes lobées, qui ont un temps de suspension du ballon qui est quand même important, et ça leur permet quand même de combler aussi ces retards, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais ça générera des failles aussi, je pense qu'on en parlera après en fin d'émission, et je suis certain que le staff de l'équipe de France aura préparé ça.
T'as bien rappelé, ils
Justement.
mettent beaucoup la pression.
Après, Alexandre, on passe au
Et...
troisième thème. Je te laisse finir, après on passe au
D'accord.
troisième thème.
Parce que Yannick il a préparé des jolies choses
Je sais,
sur
je
la
sais.
touche. C'est un autre aspect où les box mettent beaucoup la pression. C'est le troisième meilleur contre en touche du tournoi, pas en nombre de touches récupérées, mais en pourcentage. En nombre de touches récupérées, c'est le premier. En pourcentage de touches piquées à l'adversaire, c'est le troisième derrière l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. La France est septième dans ce classement. Et là, Yannick, je te laisse la
Ouais,
parole.
alors ça c'est intéressant pour ceux qui sont pas couchés. Donc, quand tu joues quand l'équipe sud-africaine, je le disais à Alex, quand ils jouent avec Peter Steph Du Toit, Eben Etzebe et Monster, ce qui est le cas contre la France, ils sont quand même redoutables au niveau du contre-en-touche. Il y a des fois ils sont prévisibles, mais là aussi. Il joue une partie de poker menteur qui est intéressante à décrypter. Sur les touches complètes, donc touches complètes, c'est avec 7 joueurs. Ils ont souvent ce système-là que moi j'aime beaucoup, mais qui est difficile à lire. C'est-à-dire qu'ils défendent en 4-3. C'est-à-dire un bloc de 4 joueurs devant composé de lifter, sauteur, sauteur, lifter. Un espace et un bloc fort au fond avec une seule option de touche. C'est-à-dire que le bloc du fond, c'est Monster. Lui, il est chargé d'avancer, de reculer, de mettre un peu le démon dans la tête du leader de touche. Hein, le leader de touche irlandais, c'est celui qui est au milieu. Je pense que c'est Peter O'Mahony sur ce match.
Touriste.
Tash Byrne.
Ouais.
Donc, Monster, donc le bloc du fond, vous voyez le deuxième bloc aux 15 mètres en turquoise. Celui-là, il met des impulsions en avançant, en reculant, et en fait, il dit aux Irlandais, attention, je ferme cette zone. Devant, on a notre deuxième bloc de 4, donc le 4, le bloc, le miroir à 4, on a deux sauteurs, Peter Steph Du Toit, qui est le premier sauteur, et Ben, qui est juste derrière, et Ben Etzebe, et ils ont des lifters sur les extrémités. Et eux deux, dès qu'ils sentent que le commandement est effectué, ils vont changer la position. Ils vont présenter on a l'impression qu'ils vont sauter devant avec Du Toit. Et dans la seconde qui va suivre l'annonce, ils vont probablement changer la photo et on va le voir sur la diapo d'après. Voilà. Et en fait, du schéma de départ, ils sont passés sur deux blocs milieu fond et les Irlandais vont annoncer. Dans la zone milieu fond et ils vont contrer ce ballon. Là, c'est Monster qui va piquer ce ballon. Donc, c'est l'exemple du poker menteur qu'ils font. Donc, là aussi, ils mettent une forme de pression sur le talonneur et sur l'annonceur mais qui sera français demain, sera probablement Cameron Wauki, puisque mais Cameron Wauki aura préparé aussi un plan pour leur éviter de jouer ce Poker Monteur. Donc je ne serais pas surpris que les Français arrivent très vite en touche et sautent vite avant que la partie d'Intox ne débute. Sur les touches réduites, pour pas mobiliser tout le temps là-dessus pour ceux qui n'aiment pas la touche, les Sud-Africains sont aussi particulièrement coquins. C'est pour ça que je vous dis, c'est des gens qui bossent et qui ont un plan tout le temps. Donc là, c'est une touche à 5, les Irlandais. Donc clairement, on voit comment sont placés les Sudaf, ce qui est assez original, puisqu'il y a un sauteur-sauteur-lifter, sauteur-lifter. On retrouve le bloc fort au fond de Monster. Et puis, on a devant deux sauteurs, et Ben Etzebe et Peter Steph du Toit. Mais il y a pas de lifter devant. Donc, on se dit, mais où ils veulent en venir? Puisque le relayeur, c'est Kitschoff, on le voit entouré en rouge. Lui, il n'est pas dans l'alignement.
Il n'est
Il est
pas
à
dans la
2
touche.
mètres de l'alignement. C'est ce qu'impose la règle. Sauf que sur la photo d'après, 2 secondes, 1 seconde après, voilà. On a no notre ami relayeur qui est rentré. Ça me fait voir que j'ai fait une faute. C'est le relayeur, pas le ralayeur, parce qu'il râle pas. Il est juste au relais. Il est rentré dans
Peut faire les deux.
l'alignement pour venir lifter Peter Seef Du-Toit, alors que théoriquement à la base il n'en avait pas le droit. Et au même moment, on voit que Malherbe est en train de lever la main au fond et de dire à l'arbitre: Ah, mais c'est moi le relayeur. C'est-à-dire que ils ont fait un mouvement de
Ouais.
bascule. Il y en a un qui est rentré, il y en a un qui est sorti, donc c'est très coquin. Et ça va perturber l'Irlande, puisque si vous revenez sur la diapo d'avant, excusez-moi Alex, ben, là, l'annonceur irlandais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais non, il n'y a pas de bloc devant. Donc on va venir prendre un ballon gratuit devant. Sauf que les Sudaf vont contrer ce ballon, et ça fait partie des 4-5 ballons qu'ils ont volés dans les 20 premières minutes du match contre l'Irlande, avec une stratégie qui est quand même coquine, mais qui montre leur niveau de travail et d'expertise sur ce secteur.
On dit que souvent que la touche, enfin que les Sud-Africains laissent le devant de la touche parce qu'ils veulent empêcher les attaques de lancer au milieu ou au fond. C'est des attaques, enfin, des zones où il est plus facile d'attaquer. Si on va devant, on a ballon gratuit, mais par contre, on prend la pression dans le dos et c'est moins facile d'écarter le ballon ensuite, d'aller jouer avec les trois quarts.
C'est vrai que c'est Laurent Travers qui le disait, je crois, dans vos colonnes ou chez un confrère à vous. Les Sud-Africains laissent généralement le devant de l'alignement. Ils faisaient ça à un moment et ça en était même répétitif. Je trouve qu'à l'image de leur rugby global, ils ont rajouté de l'incertitude. Et on l'a vu sur cette Coupe du Monde. Ils ont été capables par moment de venir sauter devant. Et notamment quand il y a cette triplette, Etzebe, Du-Toit, Monster, il y a une complicité qui n'est pas là. Quand Snyman et Klein jouent, par exemple. Donc, partie d'échecs intéressante en touche aussi demain, parce qu'on est très très armé dans ce secteur avec Thibaut Flamand, Cameron Wauki
Olivon.
et Charles Olivon. Donc, ils ont 3 sauteurs majeurs, on a 3 sauteurs majeurs. Donc, ça va être intéressant de voir qui va craquer et qui aura les nerfs solides sur cette zone de pression aussi qui sera la touche.
Messieurs, on va passer au troisième thème parce qu'il est déjà 23h59. Alexandre est bien parti pour faire ses 2 heures comme il souhaitait. Sur comment l'attaque des Bleus peut déstabiliser la défense sud-africaine, c'est ce que disait Laurent Labitte, Alex, ce que nous disait tout à l'heure, c'est que Laurent Labitte, après ce match à Marseille en 2022, en novembre 2022, il disait peut-être qu'ils auraient pu mieux négocier certains coups. Et on rappelle, ça avait fini à 2 essais partout, si je dis pas de bêtises, tu sais de tête, je crois, pour ce match 30-26 au Vélodrome, là. Il y a vraiment des coups à mieux négocier contre cette défense sud-africaine.
Je souris parce que ça me fait penser à ce que vient de dire Yannick, c'est-à-dire que à l'instant T, parfois, quand on revoit le truc, on se dit il y avait un coup à jouer, puis en fait, une seconde après, il n'y a plus de coup à jouer. Il n'empêche que ça fait. Et Jeff, tu fais partie des journalistes qui l'ont rencontré, à qui il a dit 2 fois ça. Il l'a dit une première fois en janvier, il y avait des coups à jouer, on a été trop bons élèves, trop timides. Ils avaient décidé de réduire la voilure en novembre dernier, par manque de préparation, peut-être un peu aussi par peur de cette défense particulière des Sud-Africains. Et les joueurs n'ont pas osé aller tenter quelques coups. Il l'a redit à toi et Fred Bernès il n'y a pas si longtemps que ça, puis il l'a redit ensuite en conf, en conférence de presse. Donc ils ont cette idée-là en tête. Il a aussi dit, Laurent Lavitte, est-ce que les espaces qu'on a vus il y a 10 mois, 11 mois maintenant, ils seront encore là en quart de finale de Coupe du Monde? Il faudra voir. En tout cas, on va prendre quelques exemples parce que y a les coups que les Français n'ont pas joués, sur lesquels on reviendra, mais il y a des coups aussi que les Français ont bien joués. Ils ont marqué deux essais intéressants contre les box avec des animations qui peuvent permettre d'être efficaces face à cette équipe-là. Je vais ouvrir ma petite image. Le premier essai, c'est sur un lancement de jeu sur touche. Un truc qu'on a revu d'ailleurs récemment contre l'Italie, c'est un truc tout simple. Ici, la passe de Dupont pour Tamac. C'est Tamac qui va avoir le ballon. Ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant, c'est le rôle de Penaud qui est à l'intérieur, un peu comme Will Jordan tout à l'heure. Et il est à l'intérieur de Penaud. Et il y a ici Jesse Creel qui va, comme toujours, monter très très fort de l'extérieur vers l'intérieur. Les Français vont envoyer Moefana à hauteur ici avec une course un peu rentrante à hauteur de Tamac, alors que lui, Penaud, va faire le tour de Tamac. Comme ça, dans son dos. On va voir ici, Tamac fait la passe à Penaud, très en profondeur. Et pour Krill, c'est un peu compliqué parce qu'il est monté très fort en ciblant Penaud, sauf qu'au moment où Penaud reçoit le ballon, il y a quand même, allez, peut-être 3-4 mètres entre Krill et Penaud. Et du coup, ça ne lui laisse pas forcément le temps d'intervention, surtout que Penaud a cette particularité de faire des courses très en travers. Il va être capable de faire des courses très en travers. Et en fait, il va faire cette course très en travers, Penaud, et il va échapper au plaquage de Krill. Et on voit que Colby, qui était extérieur, avait lui aussi beaucoup anticipé sur la course de Ficou vers le centre du terrain. Et ça va permettre de faire un décalage en bout de ligne. Les Français vont avancer et vont arriver à 5 mètres de la ligne. Ils vont enchaîner les pick and go. Et là, autre truc qui peut bien fonctionner face à la défense sud-africaine que les Irlandais ont utilisé. Là, on est sur. C'est Baye qui a le ballon, qui est dans le cercle rouge. Il vient de recevoir une passe de Dupont derrière un ruck. Et vous voyez, Dupont, il est ici, là. Et il y a deux joueurs à l'extérieur de Dupont. C'est Woki, je pense, et Marchand. Et en fait, Dupont, au lieu de servir le deuxième joueur de la cellule d'avant que formaient Woki, Marchand et Baye, le deuxième joueur, c'est en général le joueur qui est tout le temps servi. Il va servir le troisième. Et ça a pour effet, en fait, de tromper Colissi, qui lui a anticipé sur le fait que ça allait être le deuxième receveur qui allait être servi, deuxième avant qui allait être servi. Donc il est monté en pointe comme ça sur Marchand, sauf que le ballon lui passe devant le nez et c'est Baye qui est servi et Baye va aller marquer l'essai. Donc ça, c'est une première chose qu'on a vue qui est bien faite et qui a bien fonctionné. La deuxième, c'est l'essai de la fin de match. Et c'est une action qu'on a aussi vue lors de cette Coupe du Monde, lors de France-Namibie. Alors là, les Sud-Africains sont en sous-nombre en défense puisqu'ils ont deux cartons et les Français en ont un. Donc c'est un peu plus facile à attaquer pour les Français. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on a vu là, face à Namibie, et qui pourrait être réutilisable. On sait que les Sud-Africains laissent le devant en touche. On lance dans cette zone et on sait qu'ils vont mettre la pression tout de suite en bas pour pousser le pack français vers la touche. Et en fait, au moment où Woki est en l'air, Woki va faire une passe très rapide vers Ulucu, qui va orienter sa course très vite vers l'extérieur et retrouver Moefana à hauteur. Contre la Namibie, ça avait été Danti, ça avait fait essai. Et Moefana va attaquer face à une défense affaublie et ensuite Falatea va marquer. Donc c'est deux trucs qui avaient bien marché contre les Sud-Africains et qui sont des recettes toujours utilisables, Yannick.
Ouais, et d'ailleurs, ta première recette, les Irlandais avaient dû discuter avec toi parce qu'ils ont beaucoup utilisé les Irlandais sur la victoire qu'ils ont eue, les malheureux Irlandais. Tu sais, bon, on parle souvent des cellules de l'Irlande qui viennent toucher le joueur du milieu et avec les options de passe de leurs cellules en losange. Mais contre les Sudaf, souvent, ils sont venus servir le troisième joueur à l'extérieur directement, pour créer un peu de chaos dans la défense sud-africaine parce que les Sud-Africains ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils étudient vraiment l'adversaire au millimètre et donc ils choisissent des cibles des fois liées au travail de la semaine et le fait de les surprendre ça peut générer des opportunités d'attaque. Tu as parfaitement raison là-dessus. Et je suis certain. Je rajouterais aussi, moi, je vois bien l'équipe de France utiliser aussi beaucoup le jeu au pied. C'est quand même une des forces de Mathieu Jalibert. Il est capable de délivrer des passes au pied un peu dans toutes les situations. On l'a vu contre l'Italie. On a vu que Damien Penaud avait aussi réussi à certains jeux au pied vers Louis Bielbarré. Je pense que le jeu au pied dans les couloirs, c'est-à-dire utiliser le pied plutôt que la main pour aller jouer dans ces couloirs délaissés par les Sud-Africains, c'est une arme que le 15 de France va probablement exploiter.
Laurent Labitte nous avait dit
Juste.
aussi que à Aix, juste à Aix, Laurent Labitte nous avait dit à Fred qu'ils avaient préparé des lancements de jeu exprès pour l'Afrique du Sud ou l'Irlande, etc. C'était avant de savoir. Donc, pas se trouve, il y avait justement peut-être quelques surprises qui pourraient les déstabiliser, Yannick. Ouais.
Ouais, non, complètement. Mais voilà, le problème contre les Sud-Africains, c'est que, comme on disait tout à l'heure, potentiellement, il y a des combinaisons à jouer. Mais réellement, il y a quatre flèches qui montent à 30 km/h sur vous. Et c'est vrai que c'est difficile, quoi. Donc, c'est vraiment l'équipe, quand on l'analyse à la vidéo, oui, il y a des espaces. Mais la photo change tellement vite, justement lié aux qualités, ce qui rend les schémas offensifs quand même difficiles et qui laisse aussi de la frustration parce que toujours après le match, tu te dis, ah, mais il y avait un surnombre, il y avait du monde à l'extérieur, ouais, mais bon, on n'a pas réussi à y amener le ballon, ou on a fait un avant, ou la passe était mauvaise parce qu'on était sous pression. C'est vraiment sur ça que capitalisent les Sud-Africains. Par contre, je pense qu'ils peuvent être mis en difficulté sur des petits jeux au pied, des passes au pied, des jeux au pied rasant, entre leurs rideaux. Parce que forcément, quand on monte fort, ben on isole un peu les joueurs qu'il y a derrière nous. Et ça crée des espaces pour les jeux au pied. Et n'oublions pas qu'on a vraiment des armes dans le jeu au pied. Antoine Dupont, Mathieu Jalibert, qui est quand même très bon, Thomas Ramos aussi. Et peut-être qu'on a d'ailleurs plus de qualité dans ces jeux au pied-là que dans le jeu à la main au niveau de notre ligne de trois quarts.
Il y a un autre truc qui peut marcher peut-être aussi, c'est les renversements. Les jeux en retour, comme tu appelles ça, Yannick, c'est ce qui permet d'éviter la rush défense, puisque forcément, les joueurs qui sont en train de se replacer, mais qui viennent de défendre une première fois, et eux, ils se relèvent, ils n'ont pas forcément le temps de se remettre en place. Et souvent, c'est des avants d'ailleurs en plus, ils n'ont pas forcément le temps de se remettre en place. On a vu que les Français avaient failli bien l'exploiter en novembre, juste une capture. C'est un instant T, encore une fois, donc ça se trouve, la seconde d'après, le cours était plus jouable, mais là, quand même, il y a quand même un gros décalage. On voit donc le ballon était parti de la touche à gauche, mais dans le lancement de jeu au centre du terrain et sur le renversement. Ici, c'est Mathieu Jalibert, Ramos et Makalou. Il y a un 3 contre 1 plus 1 à jouer qui finira en touche, je crois, mais c'est quand même une bonne situation. Là, on va voir que les Gallois l'ont pas mal fait en novembre, en août, là. Partir sur la droite et très très vite on voit le replacement sud-africain d'ailleurs ils sont là ils sont vraiment c'est d'ailleurs une grosse faute défensive parce qu'ils délaissent complètement leur côté fermé ils vont le faire une autre fois sur une action suivante les Gallois grosse pression au milieu du terrain là on voit que les Gallois ont du mal même pas à se passer le ballon ils prennent la pression mais sur le renversement ils vont à nouveau prendre la pression mais ils vont réussir à aller dans le couloir et toucher le couloir et à bien avancer. Il y a, je crois, un dernier exemple. Sur ce coup-là, avec un premier temps de jeu comme ça, et sur le fermé très très vite.
La vitesse de montée est impressionnante.
Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà, ça c'est des coups jouables. Il y a un autre truc potentiellement exploitable, c'est sur ces mêlées-là, Yannick, ils défendent d'une drôle de manière et j'ai vu qu'ils avaient fait un peu pareil pendant la Coupe du Monde, les mêlées au centre du terrain, ils laissent un joueur tout seul là. Il n'y a pas non plus 36 possibilités, mais De Clercq monte en pression sur le 9 et ça fait un 2 contre 1 et ils ont fait pareil, je crois, contre l'Écosse. Ils ont pris une grosse reculée d'une trentaine de mètres. Sur le coup, là, lors de France-Afrique du Sud, ça avait été la même chose. ils renoncent pas à mettre la pression, même dans une situation comme ça. Ils comptent sur Dutoit pour combler l'espace, c'est ce qui n'est pas toujours facile.
Ouais, et pour moi, la faf de Clerc, quand même, je ne sais pas s'ils feront ça contre nous, mais s'ils font ça contre nous, ils risquent de nous courir après quand même un moment. Faf de Clerc, il défend très mal. Pour moi, dès qu'il voit que la mêlée tourne, il ne doit surtout pas mettre la pression sur le 8 français. Il doit faire le tour de sa mêlée et aller aider sa défense dans le fermé, parce que sinon, c'est un 3 contre 2, c'est impossible à défendre. Même si le premier joueur du côté ouvert sud-africain, on le voit, il est en train de réagir, il est missionné pour aller compenser à l'extérieur dans le côté fermé. Mais pour moi, c'est mal défendu de Faf de Clerc.
Alors, parmi les options qui n'ont pas été utilisées par les Français, qui auraient pu l'être, on est sur un deuxième temps de jeu. Moefana attaque le centre du terrain. On voit Arense qui est donc l'ailier, qui est très à l'intérieur du terrain, qui monte très fort à l'intérieur du terrain. Et il y a Ficou qui va intervenir sur le temps de jeu suivant. Moefana va créer un ruck au centre du terrain. Et sur le temps de jeu suivant, Ficou va recevoir le ballon et on voit qu'il se retrouve face à Krill et à Arense qui monte en pointe. Il a un peu de temps pour faire sa passe. Et on voit qu'il y a de l'espace encore entre lui et Arense. Il ne va pas faire cette passe tout de suite alors qu'il a Ramos à son extérieur, à droite, là, et qui est encore penaud. Il a potentiellement un 2 contre 1 à jouer à l'extérieur. Il ne va pas faire sa passe. Il va faire sa passe qu'une fois au sol plaqué par Arense. Et ce sera une occasion perdue. Même chose ici. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'expliquer. On est dans une cellule. Alors, en 3 plus 1, donc 3 avant ici, c'est Flamand qui a le ballon. Il va faire une petite passe à Antonio. Il y a Baye à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que Krill, qui était défenseur extérieur ici, il s'est rapproché de cette cellule d'avant pour venir défendre, prêter main forte aux défenseurs face à la cellule d'avant française. Ce qui fait que si Flamand à ce moment-là fait sa passe en profondeur à Tamac, avec Tamac, Ficou, Olivon, Moefana et Penaud, il y a un potentiel 5 contre 2 à jouer. C'est un potentiel 52 parce que, comme le dit Yannick, ce n'est pas gagné, mais quand même, il y a un peu d'espace. Et c'est un moment important du match parce que sur cette percussion, Antonio va perdre le ballon. Les Sud-Africains vont le récupérer. On est en première mi-temps. Ils vont obtenir une pénalité. Ils vont taper dans le camp français. Et ils vont marquer leur premier essai, revenir à 13-10, je crois. Et c'est vraiment un moment important, du coup, dans le scénario. On se dit, s'il y a cette passe supplémentaire de Flamand, le match prend une autre tournure, en fait. Et d'autant qu'il y a de l'espace. Et pour revenir au jeu au pied de Yannick, dont Yannick parlait tout à l'heure, là, c'est pareil, on est en fin de match. Les Bleus sont 4 points derrière. Ficou se lance dans le. Vraiment, là, Ficou anticipe un coup de pied dans le dos de la ligne de trois quarts sud-africaine. On voit que Arendse et Willy Leroux sont en train un tout petit peu de se replier, mais si Ramos dépose bien le ballon, vu que Ficou est lancé, avec l'espace qu'il y a, ça fait essai, mais Ramos ne va pas lâcher le ballon. Et les Français vont quand même marquer plus tard, bien plus tard, pas sur cette action directement. Donc ça fait partie éventuellement des possibilités envolées, oubliées par les Bleus. Et ça. C'est pour après, je crois. Je sais pas. Bref. J'avais un autre truc à montrer. Yannick, tu avais des commentaires à faire sur ça?
Non, c'est très juste. Moi, je vois les inversions, les jeux au pied, comme tu viens de le montrer. Effectivement, du jeu à l'heure, puisque il se programme souvent sur des cibles. Donc, on devrait voir ça dans l'attaque des Bleus. Je suis quand même convaincu, et parce qu'on a aussi le talent pour exister dans ces duels offensifs. Comme tu l'as souligné aussi, on a aussi ils ont des aliens des Krill. Nous, on a Ficou Danti. C'est costaud, c'est physique, ça porte bien le ballon, c'est des leaders de défense. Peut-être moins de qualité des deux côtés dans le jeu à la main pour aller jouer dans les espaces avec une grosse pression défensive. Donc, à voir la part d'innovation demain.
Alex, tu veux nous montrer quelque chose? On finit sur cette touche
Ouais,
d'optimisme et d'espoir. Ok.
un dernier truc peut-être hein, dans les trucs exploitables, même si c'est pas forcément l'habitude des Bleus de taper des renvois comme ça, mais Les Sudaf, ils ont la particularité d'avoir deux ailiers de petite taille qui sont des bombes, mais qui sont moins grands que Penaud et Vielle-Biarrey. Et sur les renvois, ils les placent. J'ai vérifié, c'est ça, c'était un match de préparation contre les Blacks. J'ai revérifié, j'ai vu la même chose avec contre l'Irlande. Ils les placent ici, là, ici, c'est RNC, et en face, c'est Colby. Et on va voir que
On voit
les
pas
All
Alex,
Blacks
hein.
avaient visé ça.
Ouais.
Ah, pardon.
Ouais. Si tu
Excusez-moi.
t'amuses tout
C'est
seul, si
vraiment,
tu
il est
t'amuses tout
vraiment
seul, on
tard.
arrête. Si tu veux t'amuser tout seul, on arrête et puis tu vas dans ta chambre, hein, ça suffit.
Là, vous voyez, c'est bon.
Là, c'est bon.
Mais bon, là, allez. Donc il y a RNC ici et Colby de l'autre côté qui garde seule la zone là, la zone la plus proche des 10 mètres. Et on voit que les All Blacks ont essayé d'utiliser ça. Ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs. Renvoi court, très court. Et Téléa récupère le ballon. Et on va le voir qu'ils ont fait une deuxième fois sur l'aile opposée. Alors pas avec Ian Foster.
Ah oui, il court, il saute aussi là. Non.
Voilà, on va le voir. Même chose avec Téléa. Et ça va leur permettre de récupérer le ballon quand même All Black sur une touche, je crois. Ou un en avant Springbok. Donc est-ce que les Français. J'ai jamais vu les Français taper les renvois courts comme ça. Mais peut-être que c'est une zone à exploiter avec des Penauds, même avec des Olivons qui va vite. Avec Vielle-Biarrey, évidemment.
Même si nous on est plus adepte de d'un gros temps de suspension du ballon juste devant les 22
Ouais.
mètres, avec comme tu l'as dit Damien Penaud, Charles Olivon qui arrive en pression et très, pour disputer le ballon en l'air et également mettre la pression en bas sur le ruck. Souvenez-vous de Marchand sur le premier ruck après l'essai néo-zélandais, 3 points pour nous sur le premier contest. On a quand même du sang Springbok aussi. Dans la pression qu'on met sur l'adversaire.
Bon, du sang, on verra s'il y en a plein partout aussi demain, parce que moi je suis très excité par ce match, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qu'elle disait, je sais plus quel joueur disait ça, si je crois que c'est Anthony Jelon, il me dit, il arrêtait pas de dire, je crois qu'il a dit 5 fois à la conf, il me tarde d'être à dimanche pour mettre des caramels, c'est un peu ça.
Le problème, Jeff, c'est que nous, on veut voir des essais, toi, tu veux voir du sang. Donc.
Ouais, bon, je veux voir un peu de tout, mais pas de prolongation, pas de tir au but, je veux une victoire franche et sans bavure de l'équipe de France, on n'en parle plus. Voilà.
Ouais, t'as
On est
pas envie
d'accord
d'avoir un
là-dessus.
bouclage compliqué, quoi.
C'est ça,
T'as envie
exactement. On
d'écrire
s'en
ses papiers
reparlera.
sous pression.
Non, moi je souhaite pas tenir la pression.
Je fais le
Merci,
malin, je fais le
messieurs.
malin, mais je pense comme toi.
Voilà, parfait. Merci beaucoup, Yannick. Merci d'avoir accepté cet horaire tardif exceptionnel. Mais bon, on verra lundi. On aura plein de choses à se dire. On espère des choses positives, parce qu'on espère que ça va continuer encore un peu quelques semaines. Et on va se coucher maintenant. Merci pour tout. Demain, on est en forme. Demain, il y a un gros match. Bye bye. Ciao,
Bonne soirée
messieurs.
à
Bonne soirée.
tous. Merci Yannick.
Bye
Merci
bye.
Justin.
Ciao.
Ciao.
Bonne nuit, Alex.
Ciao.
Ciao.